La notion de productivité marginale du capital. Concrètement, la productivité marginale du capital est définie par la valeur de la production additionnelle apportée par une unité de capital supplémentaire. Supposons par exemple que dans une société agricole, le fait de disposer de l'équivalent de 100 euros de terres supplémentaires ou bien de 100 euros d'outils supplémentaires compte tenu des prix en vigueur pour la terre et les outils permettent d'augmenter la production de nourriture de l'équivalent de 5 euros par an. Toute autre chose égale par ailleurs, en particulier en maintenant constante la qualité de travail utilisée. On dit alors que la productivité marginale du capital est de 5 euros pour 100 euros investis, autrement dit de 5% par an. Dans des conditions de concurrence pure et parfaite, il s'agit du taux de rendement annuel que le détenteur du capital, propriétaire foncier ou propriétaire des outils, devrait obtenir de la part du travailleur agricole. S'il cherche à obtenir davantage que 5%, le travailleur ira louer sa terre et ses outils auprès d'un autre capitaliste. Et si c'est le travailleur qui veut payer moins que 5%, la terre et les outils iront à un autre travailleur. Évidemment, il peut exister des situations où le propriétaire est dans une situation de monopole pour louer sa terre et ses outils au travailleur, ou bien pour lui acheter son travail. On parle alors de monopsone, auquel cas le propriétaire peut imposer un taux de rendement supérieur à cette productivité marginale. Dans une économie plus complexe, où les usages du capital sont multiples et diversifiés, on peut investir 100 euros dans une exploitation agricole, mais aussi dans de l'immobilier d'habitation, ou dans une entreprise industrielle ou service. Il peut être difficile de connaître la productivité marginale du capital. C'est en principe la fonction du système d'intermédiation financière, les banques et les marchés financiers notamment, de trouver les meilleurs usages possibles du capital, de façon que chaque unité de capital disponible aille s'investir là où elle est la plus productive, à l'autre bout du monde s'il le faut, et rapporte à son détenteur le meilleur rendement possible. Un marché du capital est dit parfait s'il permet à chaque unité de capital d'aller s'investir dans le meilleur usage possible et d'obtenir la productivité marginale maximale disponible dans l'économie, si possible dans le cadre d'un portefeuille d'investissement parfaitement diversifié, de façon à bénéficier sans aucun risque du rendement moyen de l'économie. Et le tout, bien sûr, avec des coûts d'intermédiation minimaux. En pratique, les institutions financières et les marchés boursiers sont généralement très éloignés de cet idéal de perfection et se caractérisent souvent par l'instabilité chronique, les vagues spéculatives et les bulles à répétition. Il faut dire qu'il n'est pas simple de dénicher sur toute une planète, ou même dans tout un pays, le meilleur usage possible pour une unité de capital, et sans compter que le court-termisme et la dissimulation comptable sont parfois le plus court chemin vers le rendement privé maximal immédiat. Mais quelle que soit l'imperfection des institutions existantes, il n'en reste pas moins que les systèmes d'intermédiation financière ont évidemment joué un rôle central et irremplaçable dans l'histoire du développement économique. Ce processus a toujours impliqué de très nombreux acteurs, et pas seulement les banques et marchés financiers formels. Par exemple, au XVIIIe et XIXe siècle, les notaires jouaient un rôle central pour mettre en relation les personnes disposant de fonds à placer et celles ayant des projets d'investissement, à l'image du père Goriot et de ses fabriques de pâtes ou de César Birotteau et de ses projets immobiliers. Il est important de préciser que la notion de productivité marginale du capital est définie indépendamment des institutions et des règles, ou de l'absence de règles qui caractérisent le partage capital-travail dans une société donnée. Par exemple, si le détenteur de la terre et des outils exploite lui-même son capital, alors il ne comptabilise sans doute pas séparément le rendement du capital qu'il se verse lui-même. Pour autant, le capital n'en est pas moins utile, et sa productivité marginale est la même que si le rendement était versé à un propriétaire extérieur. Il en va de même si le système économique en vigueur choisit de collectiviser tout ou partie du stock de capital, et dans le cas extrême, par exemple en Union soviétique, de supprimer tout rendement privé du capital. Dans ce cas, le rendement privé est inférieur au rendement social du capital, mais ce dernier est toujours défini comme la productivité marginale d'une unité supplémentaire de capital. La question de savoir s'il est justifié et utile pour la société que les détenteurs du capital reçoivent cette productivité marginale comme rémunération de leur titre de propriété et de leur épargne passée ou bien de celle de leurs ancêtres, sans qu'aucun travail nouveau soit apporté, est évidemment une question centrale sur laquelle nous aurons amplement l'occasion de revenir. Trop de capital tue le capital. Trop de capital tue le capital. Quelles que soient les institutions et les règles organisant le partage capital-travail, il est naturel de s'attendre à ce que la productivité marginale du capital diminue à mesure que le stock de capital augmente. Par exemple, si chaque travailleur agricole dispose déjà de milliers d'hectares par exploitation, il est probable que le rendement supplémentaire apporté par un hectare additionnel sera limité. De même, si un pays a déjà construit des immeubles d'habitation en quantité phénoménale, si bien que chaque habitant dispose de centaines de mètres carrés pour vivre, alors l'augmentation de bien-être apportée par un immeuble supplémentaire, tel que mesuré par le loyer additionnel que les personnes concernées seraient prêtes à payer pour l'occuper, serait sans doute très réduite. Il en va de même pour les machines et équipements de toute nature. La productivité marginale est décroissante, au moins au-delà d'un certain seuil. Il est possible qu'une quantité minimale d'outils soit nécessaire pour commencer à produire, mais cela finit forcément par s'inverser. Au contraire, dans un pays où une population gigantesque devrait se partager de maigres terres cultivables, de trop rares habitations et quelques outils, alors la productivité marginale de toute unité de capital supplémentaire serait naturellement très élevée et les heureux propriétaires du capital ne manqueraient pas d'en tirer parti. La question intéressante n'est donc pas de savoir si la productivité marginale du capital est décroissante quand le stock de capital augmente, c'est une évidence, mais bien plutôt à quel rythme elle décroît. En particulier, la question centrale est de déterminer avec quelle ampleur le rendement moyen du capital R, à supposer qu'il soit égal à la productivité marginale du capital, diminue quand le rapport capital-revenu bêta augmente. Deux cas peuvent se produire. Si le rendement du capital R chute plus que proportionnellement quand le rapport capital-revenu bêta augmente, par exemple si le rendement est divisé par plus de 2 quand le rapport est multiplié par 2, alors cela signifie que la part des revenus du capital dans le revenu national alpha égale R multiplié par bêta diminue quand bêta augmente. Autrement dit, la diminution du rendement du capital fait plus que compenser l'augmentation du rapport capital-revenu. Inversement, si le rendement R chute moins que proportionnellement quand le rapport augmente, par exemple si le rendement est divisé par moins de 2 quand le rapport est multiplié par 2, alors cela signifie que la part du capital alpha égale R multiplié par bêta augmente quand bêta augmente. Dans ce cas, le mouvement du rendement a simplement pour effet d'amortir et de modérer l'évolution de la part du capital par comparaison à celle du rapport capital-revenu. D'après les évolutions historiques observées au Royaume-Uni et en France, ce second cas de figure semble le plus pertinent à long terme. La part du capital alpha a suivi la même évolution générale en forme de U que le rapport capital-revenu bêta, avec un niveau élevé au XVIIIe et XIXe siècle, une chute au milieu du XXe siècle et une remontée à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. L'évolution du taux de rendement moyen du capital R a certes conduit à réduire fortement l'amplitude de cette courbe en U. Le rendement était particulièrement élevé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand le capital était peu abondant, conformément au principe de productivité marginale décroissante. Mais cet effet n'a pas été suffisamment fort pour inverser le sens de la courbe en U observée par le rapport capital-revenu bêta et la transformer en une courbe en U inversée au niveau de la part du capital alpha. Il est cependant important d'insister sur le fait que les deux cas sont possibles d'un point de vue théorique. Tout dépend des caprices de la technologie, ou plus précisément, tout dépend de la diversité des techniques disponibles permettant de combiner capital et travail pour produire les différents types de biens et services consommés dans la société considérée. Pour réfléchir à ces questions, les économistes utilisent souvent la notion de fonction de production, qui est une formulation mathématique permettant de résumer de façon synthétique l'état des technologies possibles dans une société donnée. Une fonction de production se caractérise notamment par une élasticité de substitution entre capital et travail, concept qui mesure la facilité avec laquelle il est possible de substituer, c'est-à-dire de remplacer, du travail par du capital ou du capital par du travail pour produire les biens et services demandés. Par exemple, une élasticité de substitution nulle correspond à une fonction de production à coefficient totalement fixe. Il faut exactement un hectare et un outil par travailleur agricole, ou bien exactement une machine par ouvrier industriel, ni plus ni moins. Si chaque travailleur dispose ne serait-ce que d'un centième d'hectare ou d'outils en trop, il ne pourra rien en faire d'utile, et la productivité marginale de cette unité supplémentaire de capital sera rigoureusement nulle. De même, s'il existe un travailleur de trop par rapport au stock de capital disponible, il est impossible de le faire travailler avec la moindre productivité. Inversement, une élasticité de substitution infinie signifie que la productivité marginale du capital et du travail est totalement indépendante de la quantité de capital et de travail disponible. En particulier, le rendement du capital est fixe et ne dépend pas de la quantité du capital. Il est toujours possible d'accumuler davantage de capital et d'augmenter la production d'un pourcentage fixe, par exemple de 5% ou 10% par an, et par unité de capital supplémentaire. On peut penser à une économie entièrement robotisée où l'on peut augmenter indéfiniment la production avec du capital travaillant tout seul. Aucun de ces deux cas extrêmes n'est véritablement pertinent. Le premier pêche par défaut d'imagination et le second par un excès d'optimisme technologique ou de pessimisme pour l'espèce humaine, selon le point de vue que l'on adopte. La question pertinente est de savoir si l'élasticité de substitution entre travail et capital est inférieure ou supérieure à 1. Si l'élasticité est comprise entre 0 et 1, alors une augmentation du rapport capital-revenu bêta conduit à une baisse si forte de la productivité marginale du capital que la part du capital alpha égale R multiplié par bêta diminue, à supposer que le rendement du capital soit déterminé par sa productivité marginale. Si l'élasticité est supérieure à 1, alors une augmentation du rapport capital-revenu bêta conduit au contraire à une baisse limitée de la productivité marginale du capital, si bien que la part du capital alpha égale R multiplié par bêta augmente, en supposant toujours une égalité entre rendement du capital et productivité marginale. Dans le cas d'une élasticité exactement égale à 1, les deux effets se compensent parfaitement. Le rendement du capital R baisse dans les mêmes proportions que le rapport capital-revenu bêta, si bien que le produit alpha égale R multiplié par bêta demeure inchangé. Au-delà de Cobb Douglas, la question de la stabilité du partage capital-travail. Ce cas intermédiaire d'une élasticité de substitution exactement égale à 1 correspond à la fonction de production dite Cobb-Douglas, du nom des économistes Cobb et Douglas, qui l'ont proposé pour la première fois en 1928. La fonction de production Cobb-Douglas se caractérise par le fait que, quoi qu'il arrive, et en particulier quelles que soient les quantités de capital et de travail disponibles, la part du capital est toujours égale à un coefficient fixe alpha, qui peut être considéré comme un paramètre purement technologique. Par exemple, si alpha égale 30%, alors quel que soit le rapport capital-revenu, les revenus du capital représenteront 30% du revenu national, et les revenus du travail en représenteront 70%. Si les taux d'épargne et de croissance du pays considérés sont tels que le rapport capital-revenu de long terme bêta égale S sur G correspond à 6 années de revenu national, alors le taux de rendement du capital sera de 5%, de façon que la part du capital soit de 30%. Si le stock de capital de long terme n'est que de 3 années de revenu national, alors le rendement du capital montera à 10%. Et si les taux d'épargne et de croissance sont tels que le stock de capital représente 10 années de revenu national, alors le rendement tombera à 3%. Dans tous les cas, la part du capital sera toujours de 30%. La fonction Cobb-Douglas est devenue très populaire dans les livres de cours d'économie de l'après-Seconde Guerre mondiale, notamment dans celui de Samuelson. En partie pour de bonnes raisons, mais en partie également pour de mauvaises raisons, à savoir sa grande simplicité. Les économistes aiment les histoires simples, même lorsqu'elles ne sont qu'approximativement exactes, et surtout parce que la stabilité du partage capital-travail donne une vision relativement apaisée et harmonieuse de l'ordre social. En vérité, cette stabilité de la part du capital, à supposer qu'elle soit avérée, ne garantit nullement l'harmonie. Elle peut parfaitement se conjuguer avec une inégalité extrême et insoutenable de la propriété du capital et de la répartition des revenus. Et contrairement à une idée répandue, la stabilité de la part du capital dans le revenu national n'implique aucunement celle du rapport capital-revenu, qui peut fort bien prendre des valeurs très différentes dans le temps et suivant les pays, impliquant par exemple de forts déséquilibres internationaux dans la propriété du capital. Mais le point sur lequel il nous faut insister ici est que la réalité historique est plus complexe que ce que l'idée de complète stabilité du partage capital-travail laisse à penser. L'hypothèse Cobb-Douglas est parfois une bonne approximation pour certaines sous-périodes ou certains secteurs et constitue dans tous les cas un point de départ utile pour la réflexion. Mais elle ne permet pas de rendre compte de façon satisfaisante de la diversité des évolutions historiques observées sur longue période comme dans le court et moyen terme, comme le démontrent les données que nous avons rassemblées. Cette conclusion n'a d'ailleurs rien de vraiment étonnant, dans la mesure où l'on disposait de très peu de données et de recul historique quand cette hypothèse fut proposée. Dans leur article original publié en 1928, les économistes américains Cobb et Douglas utiliser des données portant sur l'industrie manufacturière américaine de 1899 à 1922, démontrant effectivement une certaine stabilité de la part des profits. Cette thèse avait, semble-t-il, été introduite pour la première fois par l'économiste britannique Arthur Bowley, qui, en 1920, avait publié un important travail consacré à la répartition du revenu national au Royaume-Uni de 1880 à 1913, avec pour principale conclusion une relative stabilité du partage capital-travail au cours de cette période. On voit cependant que les périodes analysées par ces auteurs sont relativement courtes. En particulier, ces études ne cherchent pas à comparer les résultats obtenus avec des estimations portant sur le début du XIXe siècle et encore moins sur le XVIIIe. Il faut en outre rappeler, comme nous l'avons déjà noté dans l'introduction, que ces questions mettaient en jeu de très fortes tensions politiques à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, ainsi d'ailleurs que pendant toute la période de la guerre froide, ce qui ne facilite pas toujours l'examen serein des faits. Les économistes conservateurs ou libéraux tiennent à montrer que la croissance bénéficie à tous. Ils sont donc très attachés à la thèse d'une complète stabilité du partage capital-travail, quitte à négliger parfois les données ou les périodes indiquant une hausse de la part du capital. À l'inverse, les économistes marxistes ont tendance à vouloir démontrer coûte que coûte que la part du capital progresse encore et toujours, et que les salaires stagnent, quitte parfois à tordre quelque peu les données. En 1899, Edouard Bernstein, qui a eu le malheur de prétendre que les salaires progressent et que la classe ouvrière a beaucoup à gagner à collaborer avec le régime en place, il est même prêt à devenir vice-président du Reichstag, est sèchement mis en minorité au congrès du SPD, réuni à Hanovre. En 1937, le jeune historien et économiste allemand Jürgen Kuczynski, qui sera dans les années 1950-1960 le prestigieux professeur d'histoire économique à l'université Humboldt de Berlin-Est, et publiera entre 1960 et 1972 une monumentale histoire universelle des salaires en 38 volumes, s'en prend à Bowley et aux économistes bourgeois. Kuczynski défend la thèse d'une détérioration continue de la part du travail depuis les débuts du capitalisme industriel jusqu'aux années 1930, ce qui est vrai pour la première moitié du XIXe siècle, voire les deux premiers tiers, mais très excessif si l'on considère l'ensemble de la période. Dans les années qui suivent, la controverse fait rage dans les revues académiques. En 1939, dans l'Economic History Review, habitué à des débats plus feutrés, Frederick Brown prend clairement parti pour Bowley, qualifié de grand savant et de sérieux statisticien, alors que Kuczynski ne serait qu'un manipulateur, ce qui l'a aussi exagéré. La même année, Keynes se range nettement du côté des économistes bourgeois, en qualifiant la stabilité du partage capital-travail de « régularité la mieux établie de toute la science économique ». L'affirmation est pour le moins hâtive, puisque Keynes s'appuie pour l'essentiel sur quelques données portant sur l'industrie manufacturière britannique dans les années 1920-1930, ce qui est insuffisant pour établir une régularité universelle. Dans les livres de cours des années 1950-1970, et à dire vrai jusqu'aux années 1980-1990, la thèse d'une complète stabilité du partage capital-travail est généralement présentée comme une certitude, sans malheureusement que la période d'application de cette supposée loi soit toujours précisée très clairement. On se contente généralement de prendre des données débutant dans les années 1950-1960, sans faire de comparaison avec l'entre-deux-guerres ou le début du XXe siècle, et encore moins avec les XVIIIe et XIXe siècles. À partir des années 1990-2000, cependant, de nombreuses études mettent au jour la hausse significative de la part des profits et du capital dans le revenu national des pays riches depuis les années 1970-1980 et corrélativement la baisse importante de la part allant au salaire et au travail. La thèse de la stabilité universelle s'en trouve remise en cause et dans les années 2000, plusieurs rapports officiels publiés par l'OCDE et le FMI en viennent même à s'alerter du phénomène. Preuve que l'interrogation devient sérieuse. La nouveauté du travail proposé ici est qu'il s'agit, à ma connaissance, de la première tentative pour replacer dans un contexte historique plus large la question du partage capital-travail et de la hausse récente de la part du capital, en mettant l'accent sur l'évolution du rapport capital-revenu depuis le XVIIIe jusqu'au début du XXIe siècle. L'exercice a certes ses limites, compte tenu des imperfections des sources historiques disponibles, mais il permet, me semble-t-il, de mieux cerner les enjeux et de renouveler l'étude de la question.